Bonjour. Alors moi, j'ai assisté à peu de conseils de discipline, mais dans le cadre de ma profession, je suis coordinatrice d'un programme de réussite éducative. On a un projet qui s'occupe d'accueillir les collégiens exclus. Et bon, bah parfois, voilà, ça se termine par le conseil de discipline où on est invité. Après, c'est des instances qui sont très fermées, donc je ne suis pas présente à tous ces conseils. J'ai l'impression qu'avant le conseil de discipline, déjà tout est joué. Donc en fait, ça sert à rien. Moi, quand j'y vais, je suis un peu l'avocat du diable, en fait, et je lutte un peu seule par rapport à des choses qui sont déjà toutes faites et préétablies. Dans le cadre de cette action, j'ai travaillé récemment avec la greffière, en fait, pour voilà, qu'ils puissent aussi l'élève aller passer un peu de temps avec elle, avec le délégué du procureur, etc., voir comment fonctionne la justice et tout ça. Et elle me disait, en tant que parent d'élève, elle était outrée de voir comment ça se passait et qu'en fait, les règles en fait du procès n'étaient pas respectées. C'est-à-dire que voilà, on enterre un peu les parents, on leur reproche tout et n'importe quoi, on met tout dans le même panier. Et puis de toute façon, voilà, enfin.
Je suis chef d'établissement, donc je dirige des conseils de discipline, malheureusement, qu'on convoque, parce qu'on convoque en conseil de discipline, vraiment, c'est vrai, dans des cas où on a été au bout de beaucoup de choses. Et les choses ont énormément évolué les 10 dernières années. C'est-à-dire que justement, tout n'est pas joué. Il y a un mot qui est beaucoup employé, c'est le sursis. Alors, il faut faire attention aussi à cela, mais on fait beaucoup plus jouer le sursis maintenant qu'on le faisait jouer, par exemple, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, clairement, c'était une exclusion définitive dans 90% des cas. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Et il y a toute une politique au niveau de l'Académie de Lyon qui a été mise en place pour éviter les exclusions, parce que bon, on a aussi des problèmes de rescolarisation derrière. Je parle de collège. Voilà, donc les choses évoluent. On travaille beaucoup là-dessus. C'est vrai que par rapport aux parents, c'est très difficile, parce que si on veut collaborer avec les parents, il arrive un moment où on entre effectivement. Par exemple, on va dire, il est comment à la maison, même si on l'a entendu. Parce que l'élève, c'est pas un élève, un enfant à l'école et un enfant à la maison. C'est un tout. Donc c'est difficile de pas entrer non plus dans la vie de la famille.
Comme ma collègue, j'ai eu l'occasion de conduire et de piloter un certain nombre de conseils de discipline. Ce que je souhaite dire, c'est... Et ce qui visiblement n'apparaît pas dans l'exemple que vous citez, c'est qu'il y a des règles extrêmement précises dans la conduite des conseils de discipline. Les questions intrusives n'ont lieu d'être, si elles sont intrusives d'ailleurs, qu'en rapport direct avec les faits qui sont soumis au conseil de discipline. Un autre exemple, c'est que la parole est toujours laissée en dernier lieu à la défense, c'est-à-dire que c'est la famille qui s'exprime en dernier, systématiquement, ça fait partie des règles, et que toutes les règles de conduite du conseil de discipline sont extrêmement précises. Elles sont calquées sur les règles de justice pénale telles qu'on peut les trouver dans le civil. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion, ce que me disait la collègue également, c'est que lorsqu'on arrive au conseil de discipline, c'est qu'on a effusé tout un tas de solutions intermédiaires qui peuvent aller d'équipes de suivi en passant par des contrats signés avec l'élève et la famille, qui peuvent aller par une gradation des sanctions, parce que là aussi, lorsqu'il y a des conseils de discipline maintenant, les autorités rectorales sont très vigilantes sur le fait qu'il y a une gradation des sanctions, que ce n'est pas tombé d'un seul coup. Et enfin, en dernier lieu, mais c'est vrai, ce que je veux dire là, c'est vrai aussi pour les conseils de discipline, mais comme pour toute situation conflictuelle au sein de l'établissement, qu'elle soit d'ailleurs avec les élèves ou quelquefois avec les équipes, hein, parce que là aussi, nous avons des soucis quelquefois, c'est qu'il faut toujours avoir à l'esprit trois aspects qu'a souligné Jean-Pierre Aubin, qui est inspecteur général honoraire, qui sont... le droit, la morale et l'éthique. Alors je m'explique en 2 secondes, je vais faire vite. Le droit scolaire, mais au-delà de ça, le droit en général, qui est le droit civil primant sur le droit scolaire. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que nous ne devons agir dans le respect des règles. La deuxième chose, la morale. Alors je ne suis pas dans la morale judéo-chrétienne, je suis dans la morale commune, c'est-à-dire ce qui est communément admis comme étant acceptable ou non acceptable par la communauté dans son ensemble. sachant qu'une des difficultés à la date d'aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de morale de groupe et une morale collective qui, je dirais, perd un peu de son champ. Et la troisième, c'est l'éthique. Alors l'éthique, dans quel sens ? L'éthique, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour l'ensemble des protagonistes, à savoir, d'une part, l'élève, parce que c'est quand même l'élève qui est toujours mis en avant. Toute sanction doit avoir une vertu éducative, sinon elle n'a pas d'intérêt, parce que quand on en arrive au conseil de discipline, c'est pour nous une erreur, c'est un échec pour nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu gérer les choses autrement. Donc, qu'est-ce qui est le mieux à la fois pour l'élève et sa famille, pour le ou les éventuelles victimes, parce que il peut y avoir aussi quelquefois des victimes au sens large du terme, hein, si, par exemple un professeur qui a été insulté ou bousculé ou je ne sais quoi. Et troisièmement, qu'est-ce qui est le mieux pour l'établissement ? Parce que l'objectif c'est aussi de garder un climat scolaire favorable dans l'établissement pour l'ensemble des acteurs. Voilà. Donc ce que je voulais dire c'est que j'ai bien entendu votre description, mais elle me semble quelque peu caricaturale par rapport à la réalité du terrain. Voilà.
Bonjour. Donc voilà, je pense que vous avez fait une intervention très pertinente qui doit nous amener à prendre du recul et à nous positionner par rapport à la répartition donc inégale au conseil de discipline. Donc moi, je fais partie du conseil de discipline et effectivement, pour rebondir à ce que disait le chef d'établissement, avant d'en arriver au conseil de discipline, il y a tout un travail en amont qui est fait par rapport donc à la prise en charge, le professeur principal, les partenaires locaux, le service de réussite éducative. Il y a même récemment la commission éducative qui est le dernier recours où on alerte donc le feu est orange, il ne faut pas passer au rouge. Par contre, là où je suis d'accord avec vous, c'est une instance qui est répartie inégalement. Parce que la plupart du temps, on a devant nous des parents qui ne maîtrisent pas la terminologie, qui maîtrisent peu le français ou bien qui ne le maîtrisent pas du tout. Donc, demander à ses parents de se positionner par rapport aux actes qui sont présentés. Et la plupart du temps, les parents n'ont pas accès au dossier avant. Alors que nous, membres du conseil de discipline, le dossier, il est au secrétariat. Non, j'ai pas dit que ça n'existait pas. Le dossier, il est au secrétariat. Tout le monde y a accès, mais le parent ne sait pas qu'il peut y accéder. Mais le parent, il n'est pas à l'école. Quand il arrive, c'est une demi-heure avant le conseil de discipline ou bien un quart d'heure avant le conseil de discipline. Et il va directement dans la salle, donc où il y a une représentation, il y a l'administration. Et au niveau du vote, donc la plupart du temps, l'administration vote oui, les enseignants partagés, mais je veux dire, c'est réparti de façon inégale. Et ça ne veut pas dire que les choses sont déterminées à l'avance. Voilà, il y a toujours possibilité de demander un sursis. Par contre, je pense que là où on devrait travailler, c'est sur la terminologie et les modalités. Voilà.
Alors, juste pour qu'on facilite les échanges, vous exprimez différents points de vue, et les contextes, la manière dont ça se passe dans les différents établissements, il y a une variété, hein, et c'est cette variété-là, et ce qui est mis en œuvre à certains endroits, justement, pour éviter les effets de délégitimation, etc., qui est intéressant à faire émerger, mais aussi les choses problématiques qui peuvent éventuellement rester, sur lesquelles il faudra avancer.
Oui, bonjour. Moi, je travaille ici au Centre Alain Savary. Alors, comme je suis au fond, je vois un petit peu les réactions des gens, justement, par rapport à ce qui se dit. Et je trouve que c'est assez intéressant, donc je voudrais en faire part. Quand madame qui est coordonnatrice du PRE a exprimé son point de vue, il y a effectivement un certain nombre de personnes de l'éducation nationale qui semblaient... s'insurger, enfin, qui était visiblement blessé par ce qui était dit. Alors, moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, la première chose, c'est que déjà, si vous êtes ici dans cette formation, c'est que quelque part, vous êtes sensibilisé à la question des parents. Maintenant, il y a quand même les fonctionnements ordinaires dans les établissements et il y a des vécus qui sont très différents. Et je pense qu'il y a des véritables malentendus. Et ces malentendus, ils jouent en permanence de manière ordinaire dans la plupart des établissements. Voilà, donc après, il y a effectivement ce que vous avez expliqué, je veux dire la théorie, la dimension éthique, le droit, etc. Et puis après, il y a comment est-ce que l'établissement aménage les conditions pour que les parents soient en position d'agir. D'agir avec en ayant le sentiment d'être réellement un citoyen à part entière dans ce conseil de discipline. Et ça, c'est quelque chose qui est pas forcément facile à aménager, d'autant que le parent, il est là parce que son enfant effectivement a fait un certain nombre de choses qui correspondent pas à ce qui devrait, enfin un comportement d'élève attendu dans un établissement scolaire. Donc ça aussi, forcément, ça déstabilise le parent. Voilà, mais ce que je voudrais juste dire, c'est que il y a clairement des malentendus, et je pense que ces malentendus-là, il faut réellement les entendre et les prendre en compte, parce que le ressenti autour des conseils de discipline, qu'on soit parent, qu'on soit PRE ou une personne qui assiste à ces conseils de discipline, ou qu'on soit éducation nationale, et même quelquefois qu'on soit enseignant, on est dans des tensions qui sont très très fortes, il se joue là des choses très très fortes, et il y a de vrais malentendus, quoi. Voilà.
Oui, donc je suis proviseur d'une cité scolaire avec un collège et un lycée. J'ai malheureusement plusieurs fois des conseils de discipline à présider. Et je voudrais dire effectivement qu'il ne faut pas généraliser, parce que quand je suis arrivé, moi j'ai introduit le sursis dans les conseils de discipline. Auparavant, le conseil de discipline, c'est automatiquement l'exclusion définitive sans sursis. Donc effectivement, il peut y avoir cette situation où tout est joué d'avance. Donc ça, malheureusement, ça arrive dans certains établissements. La deuxième chose, c'est qu'en ce qui me concerne, moi, ça m'arrive souvent d'arriver au conseil de discipline sans savoir quelle position j'aurai. J'attends vraiment les débats, la discussion, les échanges, avant de prendre une position. Et ça m'arrive aussi d'être minoritaire sur les propositions que je fais, aussi bien d'ailleurs quand je propose un sursis que quand je propose une exclusion ferme. Donc c'est vraiment un lieu, pour moi, que j'essaye de faire vivre de manière démocratique. Après, qu'on ait à réfléchir sur comment on crée les meilleures conditions pour les parents, ça c'est certain. On a à progresser là-dessus. Il me semble qu'on est quand même obligé d'essayer de comprendre le contexte familial, pour avoir un peu une vision globale. Le fait de savoir que l'enfant tape sa mère, par exemple, moi, il me semble que c'est important qu'on le sache. Parce que, comme on a dit, on a un rôle éducatif, et ça fait partie des choses qu'on peut réfléchir ensemble par rapport à cette situation. Voilà.
Quand j'entends tout ce que j'entends, ça me réveille beaucoup de souvenirs d'enfance, moi-même, cancre de collège, et ayant vécu ces conseils de discipline, je me dis, et les ados, qu'est-ce qu'ils disent, les adolescentes, tout ça? Parents aussi d'un enfant qui a vécu les conseils éducatifs, j'ai trouvé ça aussi d'une grande violence et d'autant que je parle la langue, que je la comprends, que je fais partie d'une association qui travaille sur la communication dans la famille, j'ai trouvé ça mais vraiment très difficile de me retrouver là dans ce conseil. Donc ouais, j'ai envie de témoigner de ça avant même de parler de, on parle de justice, on parle d'adolescents, d'élèves qui sont mis à comparaître, j'ai entendu, quelque chose comme ça, quand ils sont pas convoqués, j'ai entendu, sursis, donc ouais, on parle de justice, mais comment la justice, elle peut être réparatrice au lieu d'être exclusive, comment elle peut être inclusive, comment elle peut prendre en compte tout le monde. Et j'ai ce souvenir en tant que maman de me retrouver toute seule avec mon fils dans son conseil éducatif et je me disais, mais... qu'est-ce que je vais pouvoir comment ne pas être l'avocat du diable, comme a dit la personne du PRE, comment être juste, comment écouter chacun, comment entendre tout le monde quand on est tout seul au milieu de toute une assemblée qui a vécu des choses difficiles avec mon propre enfant et qui est aussi énervé, en colère et avec qui c'est difficile du coup de trouver une sérénité au moment du conseil. Donc moi je m'interroge aussi sur pour pouvoir avoir des échanges, quel espace ont les enseignants et les chefs d'établissement pour apaiser, pour prendre du recul avant même de rencontrer la famille, comment la famille est accueillie en amont pour expliquer la situation, pour ne pas avoir à déballer son histoire personnelle devant tout le monde, être utilisé aussi comment tout le monde n'a pas de secret professionnel en fait et que du coup ce qui est dit peut être redit dans les couloirs de l'établissement. Ouais, je m'interroge à différents niveaux de ma personne, voilà. Merci.
Juste un tout petit témoignage en tant que parent d'élève là, délégué dans les conseils de discipline. Donc ça fait 12 ans que je fais des conseils de discipline et là j'ai arrêté parce que je trouve que c'est violent, hein, ce que dit la dame, c'est extrêmement violent. Alors, je comprends le pourquoi, le besoin de ces conseils. Et j'ai remarqué quand même en 12 ans, en ayant eu plusieurs chefs d'établissement en face de moi, que tout dépendait du chef d'établissement. Hein, la façon dont il appréhendait les choses, parce que ses enseignants, parfois, réclament des conseils de discipline à corps et à cri, donc il va le faire. Mais voilà, il a une façon de mener les choses qui peut être effectivement bienveillante. Parfois, c'est pas bienveillant et c'est plié d'avance. Je l'ai vu aussi. Et ce qui m'a surtout étonnée, c'était le laisser des parents à la sortie d'un conseil de discipline où on excluait leur enfant en disant, ben voilà, monsieur, madame, votre enfant est exclu. Au revoir. Et moi, en tant que parent, je trouvais ça mais d'une violence inouïe. Alors le parent, déjà, on lui donne pas un horaire facile. Hein, c'est un conseil de discipline qui a lieu parfois à 17h quand le parent il travaille. Enfin bon, bref, c'est pas des horaires facilitants. Il est mis en accusation, il doit répondre de choses et on le laisse souvent. Alors dans hein, je dis, ça dépend bien sûr des chefs d'établissement où le parent repart et il est vraiment accablé. Et ce qui m'a quand même aussi beaucoup étonnée en lycée, c'était les conseils de discipline suite à de l'absentéisme. Et alors là, je trouvais ça absolument incroyable. Et on a, de temps en temps, trouvé des solutions internes. Alors c'est un très très gros lycée, hein, 3000 élèves. Mais donc on a proposé à un élève l'internat en guise de... Voilà, je me dis, est-ce qu'on avait besoin de faire un conseil de discipline pour proposer ça à l'élève ?
Du coup, je vais peut-être revenir, entre guillemets. Je jette la pierre à personne, évidemment. C'est très facile, de mon point de vue, de dire tout ce que j'ai pu dire. Et voilà, j'ai dit, j'ai l'impression que, et j'ai l'impression parfois que, je travaille avec des chefs d'établissement qui sont ultra bienveillant, et effectivement je prends bien en compte la gradation, voilà, des sanctions. Mais pour autant, c'est vrai que de l'extérieur, lorsqu'on arrive, on se dit, bah voilà, il y a le gamin, sa maman et puis tous les gens de l'éducation nationale qui en ont ras-le-bol et qui se disent, à un moment, la meilleure des solutions pour tout le monde, c'est qu'ils partent, quoi. Donc et quand on est l'avocat du diable, c'est qu'à un moment donné, on reconnaît aussi l'enfant, le jeune, par rapport à ce que nous on connaît à l'extérieur, et que voilà, on essaie de valoriser, mais parfois, effectivement, la meilleure des solutions peut être aussi qu'il aille voir ailleurs. Mais comment on travaille ça, c'est hyper important, et là tout a été dit, donc voilà.
Il me semble aussi peut-être qu'une dimension qui serait intéressante de travailler, parce que on essaye d'être objectif, on essaye d'être juste. Mais ce qui se passe dans un conseil de discipline, c'est complètement subjectif. Ça surfe sur l'émotionnel pour tout le monde. Et avant, pendant, après. Hein, et donc, c'est quelque chose peut-être qu'il faut, il faut prendre la dimension de cette souffrance, de cette violence qui est en train de se créer, par laquelle il faut peut-être passer. Hein, je ne sais pas, moi, je ne la condamne pas en soi. Parce que c'est pas par hasard aussi qu'on arrive au conseil de discipline. Hein, donc il y a bien une raison, il y a bien une légitimité, bon, parfois qui peut être discutable. Mais comment, en fait, ne pas laisser un parent tout seul avec une décision aussi... Non seulement le fait qu'il va se retrouver, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais de mon gamin ? Hein, on sait bien qu'on essaye de recaser, mais aussi, je veux dire, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'échec, qui est de l'ordre de quelque chose qui atteint profondément, en plus, le lien enfant-parent. Alors que par ailleurs, on va essayer de retravailler les alliances éducatives, on va essayer de respecter un certain nombre de choses. Et puis là, il y a quelque chose, peut-être les personnes les moins prédisposées qui se retrouvent avec quelque chose à gérer qui n'est pas évident.
Alors, au collège où je travaille, au collège Jean de Tournes, nous avons essayé de changer les choses. Alors, évidemment, pas le conseil de discipline, qui est quelque chose d'individuel, mais les commissions éducatives. Il nous arrive de faire des commissions éducatives collectives dans lesquelles les parents sont au milieu des enseignants. pour un travail pour montrer aux élèves qui, eux, sont ensemble, mais tous les adultes sont mêlés, enseignants, parents, pour essayer de faire passer le message que c'est ensemble qu'on va trouver des solutions pour eh bien, faire en sorte que les enfants rentrent un peu plus dans ce qui est attendu d'eux. Et c'est les parents, les enseignants le vivent assez bien parce que après, se forment des binômes. Dans un premier temps, c'est complètement collectif, et ensuite se forment des binômes avec un enseignant et un parent. Et on va essayer de trouver là une solution plus individuelle. Mais dans un premier temps, c'est collectif et c'est peut-être un peu moins violent pour les parents.
Oui. Alors, par rapport à ce qu'a dit Madame tout à l'heure. On ne va pas d'abord systématiquement à l'exclusion définitive de l'établissement et sans sursis, puisque dans un certain nombre de cas, les décisions du conseil de discipline sont assorties de mesures d'accompagnement qui permettent justement d'engager des actions correctives pour éviter d'avoir à recommencer ensuite un nouveau conseil de discipline. Donc, c'est pas toujours joué, et donc c'est pas simplement une sanction, enfin une décision disciplinaire qui est prononcée. Point final. Deuxième chose, ce que je souhaitais dire également, c'est que dans la mesure du possible, alors là, c'est pas toujours facile parce qu'on n'arrive pas toujours à voir les parents, mais moi je sais que j'essaye d'avoir les parents avant de leur notifier l'engagement, la convocation du conseil de discipline, pour leur expliquer pourquoi on en arrive au conseil de discipline, et généralement, bon, on les a déjà rencontrés avant plusieurs fois, mais enfin voilà, leur expliquer, et ensuite, après le prononcé de la décision du conseil de discipline et des voies et délais de recours, systématiquement, on reçoit la famille avant qu'elle parte, pour faire un point avec elle et lui expliquer comment ça va se dérouler la suite des événements, c'est-à-dire que l'inspecteur d'académie va prononcer une nouvelle affectation, enfin, etc., etc. Donc, on ne laisse pas comme ça les gens, on leur dit pas c'est fini, bon baiser, au revoir et à bientôt, quoi. Hein. C'est pas comme ça du tout que ça se passe. Voilà. Donc, il y a quand même une forme d'humanité. Mais le monde n'est fait que d'individus, madame. Et préalablement à l'entrée des parents et de l'élève dans la salle du conseil de discipline, il est systématiquement rappelé aux membres du conseil de discipline que c'est une épreuve à la fois pour la famille, pour les enfants, que les débats doivent rester sereins, les paroles mesurées. Enfin, je veux dire, normalement, c'est un préalable à tout conseil de discipline. Voilà. Donc, c'est forcément violent, puisque ben, de la même manière que lorsque vous passez au tribunal, c'est forcément violent. Ça, c'est clair.
Le fait qu'il y ait effectivement, toutes ces dimensions sont rappelées dans les conseils auxquels j'ai participé. Sont vraiment bien, bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'intérieur, une fois que ces normes, ces conditions-là sont rappelées, rien ne peut prédire de ce qui va se jouer à l'intérieur même du conseil. Et il y a la lettre et l'esprit. Et ce qui se passe, c'est que se développent à l'intérieur de ces conseils, aussi régulés soient-ils, des éléments qui viennent justement peut-être en contradiction avec ce qui est... Mais ils demeurent, et je pense qu'on pourrait cadrer à l'infini ces choses-là. Bien entendu, il faut le faire, me semble-t-il, pour justement éviter. Il y a deux formes de violence. Il y a la violence qui se joue dans l'espace même du jugement du conseil, et il y a ce qu'elle dit sur une forme institutionnelle, plus loin que simplement ce conseil. Il y a le conseil comme violence en interne qu'on peut essayer de limiter à travers tout ce que vous venez d'évoquer, dont ce principal, qu'ils font, mais qui peut préjuger de la phrase qui va être dite à un moment donné, et qui va ouvrir sur ce type, et qui va rappeler, reconvoquer dans l'espace du conseil beaucoup de choses, justement de la dimension de la subjectivité, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est ça aussi, mais c'est ce qui se dit en amont, justement, sur ce qui s'est passé, sur ces rapports entre la dimension d'asymétrie qui traverse tout le système, et qui cause problème, et qui cause problème dans la réussite, mais pas simplement, ça c'est une autre dimension, de ce que sont ces programmes scolaires, ce qu'on apprend, comment ça se fait, pourquoi il y a des investissements, qu'est-ce que sont ces rapports de force, donc il y a des dimensions, il y a des étalements de violence, c'est plus que, donc il y a en interne, comme je disais, et comme symptôme, comme révélateur, comme analyseur de quelque chose de plus large, c'est ça que je voulais... Je pense. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire le rapprochement avec le cas de Tony, de cet élève qui n'avait rien à voir. Et donc, avec cette tension, on parle d'inclusion tout en. Voilà, c'est ces dimensions-là qui me paraissent.
Ce qui serait intéressant de savoir, c'est que peut-on faire pour accompagner les parents avant le conseil de discipline, après, mais de façon très concrète. Parce que évidemment, moi, j'ai eu la grande joie d'avoir un avocat le jour d'un conseil. Eh ben ça, c'est violent pour le chef d'établissement, ça, je peux vous le dire. Hein. Je me suis fait dégommer d'une force parce que il y avait deux mondes qui s'affrontaient, le monde éducatif, enfin, on essayait, plus le monde tout à fait sur la loi. C'était très compliqué. Mais bon, ça, c'était un cas très particulier. Ça m'est arrivé une fois dans ma carrière. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner les parents? Parce que, effectivement, il y a le barrière de la langue, mais il y a aussi la méconnaissance. On a beau leur dire, voilà comment ça va se passer. C'est pas suffisant pour qu'ils puissent vraiment tenir leur rôle ce jour-là. Parce que c'est vrai qu'on a des parents qui sont complètement éteints. D'autres, par contre, qui parlent beaucoup, et certains qui, entre guillemets, sont très maladroits. Et à la limite, leur intervention dessert leur enfant. S'ils l'avaient fait un petit peu autrement, enfin par rapport, par exemple, aux enseignants. Voilà. Donc comment accompagner? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, on a tous quelques pratiques, mais peut-être y en a-t-il de plus pertinentes que d'autres.
Peut-être juste exprimer, alors je sais que c'est un cas particulier, peut-être notre collège, mais j'en suis pas si sûre, le chef d'établissement, quand il y a un conseil de discipline, donc se met toujours en contact avec la famille et reçoit toujours la famille pour lui présenter pourquoi l'enfant sera en conseil de discipline. Et après, il l'envoie toujours, il lui propose toujours le travail avec l'assistante sociale. On a la chance d'avoir une assistante sociale au collège, ça c'est vrai. Et généralement, pratiquement tous les parents vont voir l'assistante sociale et préparent le conseil de discipline avec l'assistante sociale qui est invitée au conseil de discipline suivant la demande des parents. Elle vient ou pas, mais c'est vraiment les parents qui le demandent. Et il y a un vrai travail de préparation, je dirais, à ces conseils de discipline. Et bien, on a des représentants de parents d'élèves qui font vraiment poids, qui sont toujours là. On a le représentant des élèves aussi, parce que les représentants des élèves sont là et ont une voix. Et on en a deux des représentants d'élèves, on a trois représentants de parents d'élèves, et nous, on est quatre enseignants en face. Et je trouve que les voix, elles sont vraiment très bien réparties, parce qu'il y a aussi les voix de l'administration, bien entendu. Donc je trouve que les voix sont quand même bien réparties, les conseils de discipline sont bien préparés. Je dis pas qu'il n'y a pas de violence, parce que c'est toujours violent, et c'est vraiment violent pour nous aussi qui allons. Je crois que c'est violent pour tout le monde, et je peux vous garantir que c'est jamais joué d'avance. Parce que suivant ce qui se passe dans les conseils de discipline, on n'a pas... Non, vraiment, le débat est vraiment là, dans les conseils de discipline. Alors peut-être que c'est unique dans notre collège, j'en suis pas certaine, mais il y a un vrai travail qui est fait. Je vous ai garanti que, même s'il y a de la violence au bout du compte, il y a un vrai travail de préparation et on accompagne les parents. Et après, on les raccompagne à la sortie, c'est vrai. L'assistante sociale est là. La principale adjointe, c'est souvent elle qui s'y colle pour dire qu'est-ce qui va se passer après. Et comme on travaille, le retour de l'élève en classe aussi, de la même façon. Voilà.
Donc là, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est effectivement, c'est à quelles conditions ça peut se passer de la manière dont vous dites, rentrer dans la précision des processus, des interactions qu'on aménage pour que effectivement il n'y ait pas une délégitimation. Et...
Oui, donc. En écoutant tout ça, j'entends vraiment cette violence qui est en fait vécue par tout le monde finalement. Moi, je pense qu'il faudrait le répéter beaucoup parce que sinon on entre toujours dans des logiques d'affrontement, la violence de l'enfant et des parents contre celle des enseignants. Donc déjà, je pense que pour réussir à reconstruire quelque chose, il faut reconnaître en fait que tout le monde vit cette violence et qu'en même temps des logiques différentes s'affrontent, parce que d'un côté il y a une logique individuelle et de l'autre, du côté de l'institution scolaire, il y a quand même une logique plus collective. Et je me dis que par rapport aux questions qui étaient posées, quelles solutions? Bon, c'est vrai qu'on peut réfléchir aux manières d'humaniser entre guillemets le conseil de discipline, mais à mon avis, comme vous disiez tout à l'heure, il faut réfléchir beaucoup plus en amont, parce que l'idéal, c'est qu'on n'en arrive pas là. Et réfléchir à tout... Enfin, comme vous disiez tout à l'heure, ces commissions éducatives, plutôt réfléchir, à mon avis, à des solutions antérieures qui permettent de ne pas en arriver au conseil de discipline. L'autre chose, par rapport à la violence engendre toujours la violence, en fait. Donc, c'est toujours des violences qui est en réaction contre d'autres. Moi, je m'interrogeais en tant que... En ce moment, je ne suis pas devant élève, mais j'ai enseigné pendant 12 ans. Et ce dont je me rends compte, c'est qu'en tant qu'enseignant de collège, les gens sont très démunis. On crée de la violence par le système, et en même temps, on en reçoit énormément. Et il n'y a pas finalement d'instances dans lesquelles les professionnels puisse avoir une supervision, quelque chose qui leur permette de prendre du recul, et ce qui fait que les choses deviennent quelque chose de personnel, y compris quand on est au niveau du conseil de discipline. Il y a presque, je dirais pas un désir de vengeance, mais il y a quand même quelque chose de très passionnel, très émotionnel. Et il manque, je pense, pour les professionnels, une instance qui leur permette de pas rentrer là-dedans.
Oui, alors moi c'est une idée peut-être un peu saugrenue qui m'est venue comme ça à l'esprit. À entendre tout ça, je me demande s'il existe de réelles fiches de procédure, de déroulement et facile d'accès pour les parents, d'accord. Et est-ce qu'il existe un moyen de mesurer la qualité de ce qui s'est passé? Enfin, on est très actuellement dans une époque de d'accréditation, de contrôle qualité, et même au niveau de l'éducation nationale maintenant avec tous les procédures de mesures de qualité de l'enseignement, enfin du service public qui est rendu. Est-ce qu'il existe des grilles d'évaluation du déroulement d'un conseil de discipline? Est-ce qu'on peut mesurer, est-ce que les choses se sont bien passées sur le plan juridique, sur le plan humain, sur le plan relationnel? Enfin, ça serait peut-être intéressant de construire un outil de ce type et de se dire, ah oui, là on a un peu dérapé, là on est resté dans les clous, là on a été bon, là on était un peu moins bon, la prochaine fois on pourra rectifier le tir. Enfin, comme ça.
Oui, bonjour, parents d'élèves de l'enseignement public et représentant d'élèves. Donc j'ai entendu monsieur le proviseur parler de communauté, de morale de communauté admise, en tout cas la morale admise, et de morale de communauté de groupe. Et je m'interrogeais en fait sur la véritable identité de la communauté éducative. Est-ce que les membres de la communauté éducative ont tous une identité égale? Est-ce que le parent n'a pas une identité invisible au quotidien dans le système scolaire? Est-ce que le professionnel, l'enseignant, n'a pas une identité professionnelle qui finalement nous met, nous parents, dans un travers un peu de gommer peut-être ces émotions ou ces réactions humaines? Et est-ce que le représentant de parents d'élèves, je vous remercie de saluer la compétence des représentants de parents d'élèves, est-ce que le représentant des parents d'élèves n'a pas une identité trop ponctuelle? Voilà. Et est-ce que, globalement, est-ce que tout au long de l'année, on parlait d'espace préalable au conseil de discipline, justement pour pas en arriver à cette extrémité? Est-ce que tout au long de l'année, les codes sont reformulés? Est-ce qu'il y a, voilà, est-ce que les codes sont reformulés? Est-ce que les établissements sont assez ouverts pour qu'il y ait une pédagogie sur ces codes à destination des parents?